RTL Info. Jean-Paul Pitchy.
Bonjour. Le canton de Neuchâtel va devoir revoir à la hausse le soutien accordé aux faibles et moyens revenus pour payer les primes d'assurance maladie des enfants et des jeunes adultes. Le gouvernement a été interpellé ce matin à la suite de l'arrêt du tribunal fédéral qui taclait le canton de Lucerne. Avec le recours au tribunal cantonal des opposants à la fusion Neuchâtel-Ouest, le mariage entre Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel et Valangin s'enlise. Mais l'entrée en vigueur de la nouvelle commune pourrait ne pas être retardée, voire seulement d'une année. Cérémonie d'ouverture des championnats du monde de ski nordique à Seefeld en Autriche, c'est ce soir. Les espoirs de médaille suisse reposent en priorité sur Dario Colonia, mais à 33 ans, le fondeur grison a paru un brin émoussé cet hiver. C'est le même refrain qui se répète dans le ciel de la région. Le soleil a une nouvelle fois sorti ses plus beaux rayons. Quelques voiles d'altitude pourraient toutefois lui faire de l'ombre. Les températures sont toujours douces pour la saison avec 7 à 10 degrés cet après-midi. L'arrêt du tribunal fédéral à l'encontre du canton de Lucerne inquiète certains députés neuchâtelois. Fin janvier, les juges de Montrepos avaient estimé que la limite de revenus pour aider les bas et moyens revenus à payer les primes maladie des enfants et des jeunes adultes était trop basse. Le tribunal fédéral avait taclé le canton de Suisse centrale, estimant que cette pratique excluait systématiquement la classe moyenne. Ce matin, le gouvernement neuchâtelois a dû répondre à une interpellation sur ce sujet. Le Conseil d'État a confirmé que certains bas revenus auraient dû recevoir plus de soutien. Un manquement qui fait bondir l'auteur de l'interpellation, le député Baptiste Turny.
Nous, on exige évidemment déjà le respect du droit fédéral, mais cette exigence, n'importe quel citoyen concerné peut l'obtenir. Et puis, on demande surtout que dans le système social neuchâtelois, on prenne en compte l'esprit de l'arrêt du tribunal fédéral. Et l'esprit de l'arrêt du tribunal fédéral, c'est de dire, oui, il faut aider les revenus les plus modestes, mais oui, aussi, il faut aider les revenus moyens.
Si des revenus modestes dans le canton de Neuchâtel n'ont pas suffisamment été soutenus dans le paiement de leurs primes d'assurance maladie, est-ce que ça veut dire que ça ne crée pas un précédent et qu'il faudra rembourser ces personnes qui n'ont pas été suffisamment soutenues?
Bien, ça fait partie de nos questions, de savoir si le canton, s'il y a eu des problèmes par le passé, encore une fois, les calculs sont difficiles, de savoir si les montants seront remboursés rétroactivement. C'est évidemment sur la table. Est-ce que les gens concernés feront des recours au tribunal? Est-ce qu'ils demanderont des révisions des différentes décisions de subsides? Tout cela est ouvert et aujourd'hui, on est un peu déçus que le Conseil d'État se borne à nous renvoyer une conférence de presse.
Est-ce que le canton a les moyens d'aller encore plus loin dans le soutien aux revenus les plus modestes?
Le canton a des moyens limités, on le sait, ses finances ne sont pas au beau fixe, donc la question là aussi se pose. Néanmoins, on tient à préciser que c'est le respect du droit fédéral et que donc le canton doit respecter le droit fédéral. La question de ses moyens, à ce titre-là, n'est pas fondamentale. On doit respecter le droit suisse et le Parti Socialiste demande qu'il soit pleinement respecté.
Baptiste Turny était au micro d'Adrien Juvet. Le gouvernement neuchâtelois a indiqué ce matin aux députés qu'il présentera sa position face à l'arrêt du tribunal fédéral vendredi matin lors d'une conférence de presse. L'affaire de l'enseignant neuchâtelois licencié en raison de soupçons d'abus sexuels s'est invitée ce matin au Grand Conseil. La chef du département de l'enseignement, Monica Merefti, a répondu à une interpellation qui demandait si le canton mettait tout en œuvre pour éviter ce cas de figure. Le canton mise sur la prévention à l'école. Des spécialistes viennent dans les classes pour sensibiliser les enfants. Quant aux enseignants, ils doivent présenter leur casier judiciaire lors de leur engagement. Toujours au château, les députés neuchâtelois ont approuvé par 68 voix contre 35 une motion des Verts libéraux qui demande de convertir les propriétés viticoles et agricoles du canton en culture biologique. Le Conseil d'État voulait transformer la motion en postulat. Le 1er janvier 2021, c'est la date censée marquer l'entrée en vigueur de Neuchâtel-Ouest, la commune qui doit naître de la fusion entre Neuchâtel, Peseux, Corcelles, Cormondrèche et Valangin. Hier, un recours auprès du tribunal cantonal a officiellement été déposé par des opposants au projet. Ils demandent l'annulation de la votation du 25 novembre dernier et fait suite à la décision de la chancellerie d'État qui avait jugé la demande irrecevable. L'affaire poursuit donc son chemin auprès des instances judiciaires et devrait aller jusqu'au tribunal fédéral. Un enlisement qui ne devrait avoir que peu d'effet sur l'entrée en vigueur de la nouvelle commune, voire pas du tout, en partant bien évidemment de l'option que le recours sera à terme rejeté. Les explications de Raphaël Girardin.
Une année, c'est le temps qu'il reste au tribunal cantonal, puis au tribunal fédéral, s'il est saisi, pour régler la question de la votation de Peseux. Une échéance qui reste tout à fait atteignable et qui permettrait aux citoyens des quatre communes d'élire leurs nouvelles autorités au printemps 2020. Dans le cas où la décision ne tomberait pas dans une année, mais serait à bout touchant, imaginons annoncée pour l'été 2020, il existe la possibilité légale de reporter les élections à la fin de l'année pour pouvoir toujours permettre à la nouvelle commune de voir le jour au 1er janvier 2021. Dernier cas de figure, le recours ne serait traité qu'en fin d'année 2020, voire début 2021. L'entrée en fonction de Neuchâtel-Ouest devrait alors se faire au plus vite, c'est-à-dire dès le 1er janvier 2022. Dans ce cas-là, les quatre communes renouvelleraient leurs autorités normalement au printemps de l'année prochaine, des autorités qui ne feraient qu'un mandat raccourci avant de nouvelles élections pour la commune fusionnée.
À noter que tous ces cas de figure passeront préalables par des discussions entre le canton et les quatre communes concernées. Un petit hiver, en tout cas jusqu'à aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds. Depuis le début de la saison hivernale, il est tombé 143 cm de neige. L'essentiel a été cumulé durant 15 jours. En janvier, on est pour l'heure très loin des 3 mètres cumulés de l'année dernière. Selon le voyer-chef, la population joue bien le jeu des mesures hivernales, même si quelques citoyens trouvent toujours matière à se plaindre. Becky Romerovitch.
Si je vous donne le chiffre des réclamations qu'on a reçues, qui ne sont pas toujours justifiées, on a à peu près une réclamation par centimètre de neige tombée. Donc j'ai 143 centimètres de neige cumulés, on a 144 réclamations. Le problème qu'on rencontre souvent avec le particulier, c'est qu'il voit justement sa propre problématique. Le déneigement effectué par le service des espaces publics, il est là pour déneiger l'ensemble de la ville. On doit avoir un principe qu'on doit appliquer partout, on ne peut pas faire à la carte pour chacun une manière différente. Si je vous donne un exemple flagrant, la réclamation type, c'est vous poussez la neige devant mon entrée, puis pas devant mon voisin qui est de l'autre côté de la rue. Mais on ne pourrait pas imaginer jongler avec la planche, tourner une fois à gauche, une fois à droite, et puis faire ça des centaines, voire des milliers de fois sur la ville. Ce n'est pas possible. On a un principe qu'on doit appliquer, et après, c'est aux propriétaires privés de dégager leur entrée.
Des propos recueillis par Claire Vigée, la voirie a légèrement modifié son planning d'évacuation de la neige. Jusqu'ici, elle était transportée à la décharge entre 2h du matin et midi. Mais dès 6h, le rythme était ralenti par l'augmentation du trafic pendulaire. Cet hiver, c'est donc entre 22h et 6h du matin que les employés font disparaître l'état de neige. La personne grièvement blessée après l'avalanche survenue hier à Crans-Montana est décédée. L'annonce a été faite ce matin par la police cantonale valaisanne. La victime est un patrouilleur du domaine skiable, un Français de 34 ans. Les recherches ont également été interrompues ce matin. Aucune autre personne n'a été retrouvée, a indiqué la police. Le bilan s'établit donc à un décès et 3 blessés. Les recherches s'étaient poursuivies durant la nuit. Elles reprendront si la situation l'exige. Mais aucune disparition n'a été signalée, ajoute encore la police. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances du déclenchement de l'avalanche. Deux hypothèses sont actuellement examinées. La coulée aurait pu être déclenchée par des skieurs ou il s'agirait d'un déclenchement spontané lié aux conditions climatiques. Les Gilets jaunes s'invitent en Suisse. Plusieurs centaines d'entre eux se sont réunis ce matin à la place des Nations devant l'ONU à Genève. Ils crient leur désarroi face au gouvernement français et l'attitude des forces de sécurité. Les Kosovars retournés au pays devraient à nouveau recevoir leur rente à VSUAI. La commission de la sécurité sociale du Conseil des États soutient à l'unanimité une nouvelle convention signée avec Pristina. Contrairement au Conseil fédéral, elle souhaite toutefois soumettre le texte au référendum facultatif. Le Kosovo est le seul État de l'ex-Yougoslavie avec lequel il n'existe plus d'accord depuis le 1er avril 2010. En décembre 2009, le gouvernement avait décidé de ne plus le reconduire après que des enquêteurs chargés sur place de débusquer des abus avaient reçu des menaces de mort. Il y a 25 ans, les Suisses décidaient de faire passer les marchandises par le rail. Le 20 février 1994, contre l'avis du Conseil fédéral et du Parlement, près de 52% des citoyens approuvaient l'initiative pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit. Il s'agissait de protéger les êtres humains, les animaux, les plantes et leurs espaces vitaux des nuisances causées par les poids lourds. Mais les romands refusaient tous le texte. Isabelle Pasquier, coordinatrice de l'initiative des Alpes pour la Suisse romande.
94, c'était 2 ans après le non à l'espace économique européen. Et c'est vrai qu'en Suisse romande, il y avait cette sensibilité, cette crainte à l'époque qu'on donne de nouveau un signal négatif vis-à-vis de l'Union européenne. Et en fait, c'est pas dans ce sens-là que les choses se sont appliquées, puisque c'est pas les camions étrangers qui sont bloqués, mais c'est vraiment une réduction qui vise de manière globale le trafic de transit. Et c'est quelque chose qui a pu être négocié et compris par l'Union européenne.
Le nombre de poids lourds passant par les Alpes a fortement diminué depuis le début du siècle, mais l'objectif pour 2018 n'a pas été atteint. Laurent Seydoux, membre du comité de l'initiative des Alpes.
Alors évidemment, ça c'est un petit peu le bémol de la journée, on est plutôt à 900 000 encore. Simplement, il faut dire que dans les autres pays européens, si chez nous c'est 70% du transit des marchandises qui passent par le rail, dans les autres pays c'est plutôt 30%. Donc en réalité, on a déjà empêché plus d'un million de camions de traverser les Alpes. Donc c'est déjà une réussite, mais c'est vrai que l'objectif de 650 000 camions n'est pas atteint, d'autant plus que les camions sont encore de plus en plus grands, que de plus en plus de marchandises sont transportées encore de façon générale, donc il y a encore une marge à obtenir pour arriver au 100% du transfert des marchandises sur le rail.
Un dossier de notre correspondant à Berne, Jérôme Favre. L'association Initiative des Alpes, qui continue de se mobiliser pour ce transfert, fait-elle cette année ses 30 ans. Elle compte près de 50 000 membres. Dans le reste de l'actualité, moins de 3 jours après le déraillement d'un train allemand à Bâle, le trafic ferroviaire est rétabli dans la cité rhénane entre la gare CFF et la gare de la Deutsche Bahn. Convois internationaux et RER circulent de nouveau depuis ce matin. Après avoir démissionné en novembre dernier du Parti Socialiste Biennois, le conseiller de ville et député au Grand Conseil bernois Mohamed Hamdaoui rejoint les rangs du PDC. Jusqu'à présent, il exerçait ses mandats politiques comme indépendant. Après le ski, place au ski nordique. La cérémonie d'ouverture des championnats du monde est programmée à 18h ce soir dans la station autrichienne de Seefeld. La délégation suisse sera une nouvelle fois emmenée par Dario Colonia. L'analyse de Marcel Neuenschwander.
À 33 ans, Dario Colonia commence à faire figure de vétéran. Mais le quadruple champion olympique grison constitue toujours la principale, pour ne pas dire la seule chance de médaille des représentants de Swiss Ski à Seefeld. Dario Colonia débarque toutefois dans la station autrichienne sans véritable course de référence cet hiver. Il a obtenu son meilleur résultat début décembre à Lillehammer. Il s'était classé 4e du 15 km en skating. Médaille ou pas, Dario Colonia reste toutefois un athlète au potentiel d'exception, capable de se sublimer le jour J. Sans rentrer dans les détails, les 8 autres fondeurs suisses sélectionnés peuvent prétendre à des top 15, ce qui est déjà pas si mal. La délégation des fondeurs suisses, elle, se limite à 4 noms. Nadine Fendrich et Lorian van den Graaf peuvent briller en sprint. Après un hiver en demi-teinte, la bernoise Nathalie von Siebenthal espère, elle, sortir de l'ombre en Autriche. En soi ski, Simon Hamann évoluera sans pression. À 37 ans, le quadruple champion olympique a cédé son rôle de leader à un vaudois de 14 ans, son cadet, Kylian Peyer. Cette saison, le natif de la vallée de Joux a terminé à 5 reprises dans les 10 premiers en Coupe du Monde. Kylian Peyer paraît toutefois encore trop tendre pour briguer une place sur le podium.
Les sprints, messieurs et dames, sont les deux premières épreuves inscrites au programme de ces championnats du monde de ski nordique. Demain, dès 12h, à Seefeld. Le retour au jeu de Clint Capella sous les parquets de NBA, la ligue professionnelle nord-américaine de basketball, est prévue pour demain soir. Le pivot genevois de Houston a manqué 15 matchs en raison d'une blessure ligamentaire au pouce droit. Clint Capella s'était blessé le 13 janvier dernier. Il avait dû se faire opérer quelques jours plus tard. Des soucis de cœur pour le footballeur allemand Sami Khedira. Le milieu de terrain de la Juventus va devoir observer une pause d'environ un mois. Il souffre d'arythmie cardiaque. Si tout se passe bien, il devrait revenir dans le cadre de l'équipe d'ici 30 à 40 jours, selon la Gazzetta dello Sport du jour. Bon appétit, bel après-midi.
12h29.
La météo avec Varro, le seul fournisseur à produire ses carburants et combustibles en Suisse. Restez au chaud avec Varro et sa gamme de mazout haute performance néoflamme. Informations sur varro-energie.ch.
Quelques rares nuages traînent par-ci par-là, juste pour donner un petit peu une référence, hein, pour apprécier le bleu qui est tout autour. Presque rien, presque pas de nuages, 10 à 11 degrés en ce moment, et pour demain, on prend la même chose et on enlève les moindres petits nuages qui traînent. Grand ciel bleu, 11 à 12 degrés. Quelques petits nuages pourraient venir ce week-end, mais pas grand-chose entre vendredi et samedi. Grand bond de retour dimanche, avec peut-être un peu de bise qui pourrait souffler et rafraîchir les températures, mais à peine en dessous des 10 degrés, ce beau temps devrait nous accompagner jusqu'à lundi.
C'était la météo. Faites le plein d'énergie locale avec Varro au 0800 63 63 52.